Vous écoutez France Culture.
À 6h46, comme chaque jour, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc Moinchet.
Aujourd'hui, le monde arabe, la dimension régionale de la guerre civile en Syrie. Votre invité Fabrice Balanche.
Bonjour Fabrice Balanche.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous, merci. Vous êtes maître de conférence à Lyon 2. Alors la guerre civile, évidemment, en Syrie, entre en résonance avec l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. La Syrie a été un allié important de l'Iran. Elle a même formé un triangle d'intérêt avec le Hezbollah libanais. D'un autre côté, l'Arabie saoudite et le Qatar ont poussé à une intervention militaire internationale et aident en pratique les oppositions. Hier, l'émir du Qatar a dit que, en fait, le plan Annan avait 3% de chances de réussite et qu'il fallait armer les opposants, ce qu'ils font d'ailleurs en pratique. Et puis le ministre syrien des Affaires étrangères est en visite à Moscou et en Chine. La Turquie dans la région est directement concernée par la situation, on va le voir comment. Il y a la question kurde, il y a Israël. En fait, ça redevient la Syrie un pays pivot, mais alors pour évidemment dans des situations catastrophiques.
Oui, tout à fait. La Syrie redevient un pays pivot dans la région, une situation catastrophique, beaucoup plus catastrophique que ce qui se passe en Libye avec les conséquences sur le Mali, par exemple. Et c'est ce qui fait le jeu de Bachar el-Assad, puisque si on évite justement à intervenir en Syrie, c'est pour éviter une déflagration régionale.
Alors, si on prend dans l'ordre, on a parlé du Liban récemment, c'était, je vois, le 30 mars dernier avec Joseph Baout. Et donc, on peut peut-être parler tout de suite de la relation à l'Iran et à l'Arabie saoudite.
Alors la Syrie, comme l'avait dit, est l'alliée de l'Iran depuis les années 80, par opposition à l'Irak, non pas au départ d'une alliance chiite, même si c'est un paramètre qui prend aujourd'hui beaucoup plus d'importance, au point qu'on parle de croissant chiite. Parce que la Syrie, c'est vraiment la clé du dispositif iranien dans la région, avec son soutien au Hezbollah libanais. Et il assure aujourd'hui que l'Irak de Maliki est tombé dans le giron iranien, une continuité territoriale vers la Méditerranée, une base arrière pour le Hezbollah. Et ça, effectivement, depuis la chute du gouvernement Hariri en janvier 2011, qui était l'aboutissement de la poussée du Hezbollah libanais, soutenu évidemment par la Syrie depuis la guerre de 2006.
Il y a d'ailleurs un paradoxe ou plutôt une contradiction en ce qui concerne la Syrie et l'Irak, si vous en êtes d'accord. C'est le fait que c'était deux régimes laïcs, partis bassistes, frères ennemis. D'ailleurs, Michel Aflaq, etc., les grands pères du parti basse sont d'origine syrienne. Et en même temps, il n'y a plus de régime, pour ainsi dire. Pour autant qu'il existe encore, il n'y a plus de régime laïque dans le monde arabe. C'est une grande réussite, évidemment, de tous ces conflits.
Oui, tout à fait. Et bon, c'était une laïcité évidemment relative, hein, rien à voir avec la laïcité française, puisque le président de la République devait être quand même musulman. Mais bon, par rapport au nouveau régime qui se met en place après les printemps arabes en Tunisie ou en Égypte, il est vrai qu'on avait au moins des régimes laïcs et non pas inspirés par la religion.
Alors, vous dites, Fabrice Balanche, que la Syrie est, comment pourrait-on dire, à la jonction des intérêts iraniens, vous l'avez dit, et des intérêts saoudiens.
Oui, c'est des intérêts saoudiens, c'est-à-dire que pour les Saoudiens et pour les gens du Golfe, dont la grande crainte, évidemment, c'est l'Iran, et c'est la réactivation des communautés chiites dans la péninsule arabique, il fallait absolument casser cet axe pro-iranien. Et la Syrie apparaissait comme le maillon faible de cet axe pro-iranien, puisque dirigée par une minorité chiite, les Alaouites, alors que la majorité de la population... 80%, si on inclut les Kurdes, sont sunnites. Donc ils sont pensés qu'il serait facile de déstabiliser ce régime, que la population allait se soulever pour des raisons communautaires contre le régime bassiste. Bon, c'était sans compter évidemment son système, sa capacité de répression, et aussi le nationalisme des Syriens, même de la communauté sunnite, qui... a une certaine animosité à l'égard en fait des pays du Golfe qui se croient tout permis avec leur pétrodollar.
Et comment expliquer justement le rôle et on va dire le dynamisme diplomatique et même militaire d'une certaine façon du Qatar par exemple, c'est-à-dire en quoi est-ce que cela promeut sa grande diplomatie dans la région? Quels sont ses intérêts à long terme?
Alors sa puissance, elle vient tout simplement de sa richesse, son assez richesse. Hein, c'est le pays qui a le plus fort PIB au monde grâce à ses réserves
de gaz. Gazières,
à peu près 20% des réserves mondiales. et puis une très faible population, hein, 350 000 nationaux, donc ça permet de dégager des surplus évidemment pour alimenter la diplomatie. Ce pays veut jouer un rôle diplomatique, donc il a soutenu les frères musulmans depuis les années 80. Vous avez le cheikh Al-Qaradawi qui a justement été interdit de venir en France récemment, qui prêche tous les vendredis sur Al Jazeera et qui a, je dirais, fait une déclaration de guerre à la Syrie de la part de l'émir du Qatar en disant le train de la révolution s'est arrêté à la station syrienne, la Syrie ne peut pas rester en dehors de l'histoire arabe. Ça, c'était fin mars 2011. Et on voit bien que le Qatar soutient donc tous les courants fréristes, par opposition à l'Arabie saoudite qui soutient plutôt les courants néo-salafistes.
Ou fondamentalistes, peut-être ? C'est compliqué d'ailleurs ces étiquettes.
Alors les salafistes et les frères musulmans sont deux courants, on va dire fondamentalistes. Les frères musulmans sont un peu plus modernes parce qu'ils reconnaissent, je dirais, les institutions de l'État, alors que les salafistes, eux, n'en veulent pas. Ils veulent revenir à l'époque du prophète Mahomet. Mais bon, ce sont tous les deux des gens qui utilisent l'islam politique, qui utilisent la violence pour arriver à leur fin, même si les frères musulmans ont peut-être refroidi un petit peu leurs ardeurs ces dernières années, mais par raison stratégique, non pas par altruisme. Et le Qatar, donc, les soutient en Tunisie, en Égypte et en Syrie.
Alors, il y a évidemment un très gros morceau dans la région qui n'est pas musulman, qui est musulman, mais qui n'est pas arabe. C'est évidemment la Turquie. Elle est directement concernée par la situation. On pense aux réfugiés, on pense à sa volonté initiale de créer une zone tampon. On pense à son droit de suite, qu'elle exerce d'ailleurs, qu'elle a exercé aussi depuis longtemps en Irak, mais également en Syrie. Et on pense évidemment, alors là, essentiellement à la question kurde. Elle en a lot le plus important.
Alors la Turquie, là aussi, une réussite économique ces dernières années.
Une croissance remarquable et régulière.
Et tout à fait. Et aujourd'hui, eh bien, elle se prend à rêver de nouveau de vocation régionale. Elle veut absolument valoriser sa place stratégique au Moyen-Orient. Et la crise syrienne constitue justement l'ébauche de cette application, de cette doctrine turque décidée par le ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoğlu. Qui veut étendre donc l'influence turque, qui veut aussi, c'est une influence politique, mais derrière le politique, il y a évidemment l'économique. La Turquie a besoin de marchés pour continuer à développer son économie. Elle bénéficie du soutien des États-Unis à travers l'OTAN, parce que les États-Unis sont en retrait sur tous les dossiers du Proche-Orient aujourd'hui. Et il cherche un gendarme régional. La Turquie est tout à fait le gendarme qu'il souhaite, d'autant plus que le modèle turc pourrait être une alternative au modèle rentier saoudien, puisqu'on a un modèle économique qui se développe sur de la production. Une réconciliation entre islam et démocratie, entre guillemets, parce que cette réconciliation est possible parce qu'il reste en Turquie des forces laïques qui brident le pouvoir de l'AKP, parce que quand on voit la politique de l'AKP à l'égard des Kurdes, effectivement, c'est assez sanglant, hein, une politique de répression très très forte. Et c'est aussi pour ça que la Turquie veut intervenir en Syrie, c'est pour neutraliser les Kurdes syriens, éviter qu'ils ne constituent un territoire sur le modèle du Kurdistan irakien, et que ça donne ensuite évidemment des idées aux Kurdes de Turquie.
On peut dire d'une certaine façon que la Turquie est le gardien des frontières dans la région.
Le gardien des frontières, oui, on peut dire ça, pour éviter justement l'éclatement de différents des pays sous des lignes communautaires. Le Kurdistan irakien, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle il ne prend pas son indépendance, c'est parce que les Turcs, c'est une ligne rouge que les Turcs ont mis en place.
Alors, il y a un dernier État dans la région, on ne l'oubliera pas, c'est Israël. Donc, conflit israélo-palestinien, mais aussi la Syrie, pour elle, était un acteur clé de la région. Et au début, avec beaucoup de légèreté diplomatique, Israël s'était félicité des soulèvements populaires syriens.
Oui, alors Israël s'était félicité parce que, en fait, Israël veut la chute d'Assad, voudrait faire tomber ce régime qui est le soutien du Hezbollah et donc de la principale menace pour les Israéliens qui est l'Iran. Ensuite, ils ont peut-être réfléchi un petit peu en se disant, bon, instabilité en Égypte, instabilité en Syrie.
Et ils en ont déjà pas mal chez eux.
On est tranquille. Effectivement, ils sont en retrait sur le dossier syrien. Une chute du régime d'Assad, si on fait un peu de prospective, ça les intéresserait dans la mesure où la Syrie, justement, pourrait partir en morceaux avec un État kurde, un État alaouite sur la côte, qu'ils soutiendraient, tout comme les Iraniens. Là, les ennemis se retrouveraient sur ce dossier parce que ça permettrait d'affaiblir le nouveau régime syrien qui serait moins revendicatif sur le Golan. Parce que si on rêve un peu que la Syrie devenait une démocratie, Israël ne pourrait pas se dire la seule démocratie du Moyen-Orient et à ce moment-là devrait négocier le retour du Golan avec un pays démocratique. Et ça, évidemment, il n'en est pas question pour les Israéliens.
En même temps, Israël n'a aucun intérêt à avoir un régime islamiste à Damas tel qu'il se profile compte tenu de la politique du régime actuel, au fond, c'est-à-dire que encore plus d'islamisme.
Un régime islamique
veut arriver par les élections, comme c'est le cas en Égypte, comme c'est le cas ailleurs.
Bon, si c'est un régime islamiste tenu en laisse par le Qatar et par la Turquie, Israël n'a pas tellement de problèmes, n'aura pas tellement de problèmes avec ce type de régime, parce que la Syrie aura besoin d'argent pour son développement économique. Cet argent, elle le trouvera à l'extérieur. Et évidemment, dans ces cas-là, il faudra être conciliant avec les bailleurs de fonds, qui sont globalement des alliés d'Israël.
Journée Solidarité Syrie. Merci Fabrice Ballanche d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes maître de conférence à Lyon 2. FranceCulture.fr pour écouter l'émission, celle des enjeux internationaux. Puis je sais que la Fabrique de l'Histoire tout à l'heure va également parler de la période des mandats qui était évoquée tout à l'heure.
La Fabrique de l'Histoire, de nos très nombreuses émissions, bien sûr, seront consacrées bien sûr à la Syrie. La grande table avec cette question, faut-il soutenir les opposants, quels qu'ils soient, et comment raconter la Syrie chez Caroline Brouet de 12h à 13h30. Et puis bien sûr, un grand entretien exclusif avec Jonathan Little qui revient de Syrie. Ce sera chez Hervé Gardette de 18h20 à 19h.